Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05, de retour dans les grandes gueules du sport avec Cédric Hémange, Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Simon Dutin. Nous sommes ensemble depuis 9h ce matin. Nous avons évoqué évidemment le Stade Toulousain qui a remporté un triplé inédit 2023, 2024, 2025. Le bouclier de Brennus pour les Toulousains. À suivre la grande parade évidemment, place du Capitole. Ce sera aux alentours de 17h et ce sera à suivre sur RMC. Dans quelques instants, on va s'intéresser au vaincu. L'UBB dit encore adieu au bouclier de Brennus. Alors, pas de fessée cette fois-ci, mais une défaite au bout de la nuit en prolongation. Cette défaite est-il plus traumatisante qu'en 2024? 11h30, J-1 avant le grand début de Wimbledon 2025, 21 jours après la finale de légende entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. L'Espagnol est-il entré dans la tête de l'Italien? N'êtes pas d'accord les GG, on se posera la question. Et puis 11h45, comme d'habitude, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles doivent débattre. Je sens que ça va vous plaire. Vous allez avoir des choses à dire, des choses peut-être sur le cœur, profondes, enfouies en vous. Je sais pas, j'imagine, enfin bon, j'espère en tout cas.
C'est bien vendu.
Non. Oui, j'essaye. J'essaye de faire mon métier. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Mel Brooks qui a dit un jour... C'est très déprimant de vivre quelque chose qu'on a anticipé.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Attention, le travail, Capozzo, il remet les jambes. Il va y aller ou pas? Capozzo, l'essai. Le 9e essai toulousain. En quoi? C'est une orgie. C'est une orgie, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Un essai de 100 mètres.
23-0, c'est la piquette, Jack.
Lucu, peut-être un petit rasant. Super pour Penaud.
Super
essai de Penaud. À 14, qu'est-ce qu'il est beau.
Peut-être une légère amélioration de l'état général. Vous vous sentez mieux?
Je ne pensais pas que Bordeaux, en mêlée, souffrirait comme ça, parce qu'ils ont encore été pénalisés là.
Tu sais pas jouer, Jack.
Peut-être l'essai de Beauchâton, l'essai.
Essai de Bordeaux.
De Guido Petit, c'est incroyable, c'est fou.
It was incredible when I read that because it was like traumatisme.
Eh oui, it was like traumatisme, exactement. Merci à Denis Charvet. Cette fois, l'UBB n'a pas fait honte. Cette fois, l'UBB n'a jamais été aussi proche de remporter le premier bouclier de Brennus de son histoire. Mais comme en 2024, les battus, les malheureux, ce sont eux. Les Bordelais, l'humiliation de l'année dernière, laisse la place au regret éternel, peut-être foudroyé par deux coups de pied de Thomas Ramos. En prolongation, la musique qui fout les jetons. Et cette question, cette finale, est-elle plus traumatisante que la claque de 2024? Oui ou non? Simon Dutin.
Ah, j'ai peur que oui.
Ok, y a du oui. Cédric Hémans.
Oh non.
Oh non. Avec une voix suave et délicate et excitante. Je le reconnais. Merci, je ne connaissais pas ce talent. Mario Bartoli.
Bien sûr que non.
Bien sûr que non. Jérôme Pinault.
Moi, j'ai l'affaire à la Cédric Hémans. Oh oui.
Oh oui, c'est un 2 contre 2. Avant de débattre, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux au Stade de France hier soir, Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut JC, bonjour les GG. Salut
Pierre. Alors, tu as eu l'immense joie de retrouver les Bordelais hier après la rencontre. Est-ce qu'ils étaient KO debout encore?
Alors, KO, oui. Triste, déçu, c'est sûr, mais pas abattu par la défaite. C'était vraiment ça qui ressortait. Tout le monde était un peu sonné, épuisé aussi, puisqu'il y a eu 100 minutes d'un combat très intense. Toulousain et Bordelais, d'ailleurs, il n'y a pas d'effusion. Fusion de joie côté Toulousain énorme, en tout cas en zone de presse. Côté UBB, le combat a laissé des traces chez Yannick Bru, le manager.
Ouais, c'était une finale épuisante, c'était une fin de saison épuisante. Mais on est déçus, très déçus, mais on n'est pas dévastés pour autant. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que je pense que la meilleure équipe a gagné ce soir. Bravo à Toulouse qui méritait d'être sacré champion ce soir.
Le plus fort a gagné. Voilà le message de l'entraîneur bordelais. Malgré la pénalité de Maxime Lucu à la 80e minute qui a permis à Bordeaux d'aller en prolongation et d'y croire, l'arrière Romain Bureau s'est senti que les Rouges et Noirs étaient au-dessus pendant toute la rencontre.
On accroche presque miraculeusement la prolongation. Donc malgré que le match ait été serré jusqu'à la fin, j'aurais tendance à dire que Toulouse a mieux géré le match que nous, notamment la première mi-temps. On est tous déçus de ce match, on était fatigués, mais on a conscience qu'on a commencé à écrire l'histoire du club. Maintenant, il faut que on prenne des vacances, qu'on récupère bien et que dès le retour, on soit motivé pour peut-être un jour décrocher ce bouquet.
Le match n'avait rien à voir avec la finale de la saison passée. Les Bordelais se sont accrochés, y ont cru. Maxime Lucu accuse le coup forcément, mais salue la progression de l'équipe.
D'avoir réussi à 10 minutes de la fin, à 10 points de Toulouse, renverser la vapeur, les amener sur une prolongation, 20 minutes de plus, forcément c'est quelque chose qui fait qu'on a progressé et que voilà, le match était magnifique à jouer, magnifique à regarder, je pense. C'est difficile à accepter, à se remettre des émotions qu'il y a eu ce soir. On a du mal, c'est un coup de massue sur la tête, notamment sur cette fin de match. Mais en tout cas, ouais, moi je suis fier de l'état d'esprit des mecs, je suis fier du groupe. C'est dommage d'échouer au bout de la nuit à 6 points près. Ça a été une saison incroyable avec ce groupe-là et on est fiers quand même. Ouais.
Cette année encore, Toulouse a été plus fort en finale, mais les Bordelais, il faut le rappeler, ont gagné un titre cette saison, ont battu 3 fois les Rouges et Noirs aussi sur l'année et ont montré qu'ils se rapprochaient du Stade Toulousain.
Merci beaucoup Pierre Thévenet, tu restes avec nous pour ce débat. Cette finale est-elle plus traumatisante que la claque de 2024? J'ai deux oui, j'ai deux non. Venez nous dire ce que vous en pensez, supporters bordelais, si vous êtes abattus ce matin au 32-16. On va commencer avec un oui, un oh oui même, Jérôme Pinault.
Ben oui, parce que justement pour les arguments qui ont été évoqués dans le sujet, c'est-à-dire qu'ils ont battu 3 fois. Quand tu prends une raclée, tu peux pas avoir de regrets. Ça laisse des traces, certes, mais ça donne un sentiment de revanche. Là, tu les as battus 3 fois et tu échoues pour très peu et t'as le sentiment de on n'y arrivera jamais. Moi, je prends un exemple. Rappelez-vous Laurent Fignon, Greg Lemon, 8 secondes. Cette perte du Tour de France pour Laurent Fignon, le regretter, a été traumatisant pour le reste de sa carrière et de sa vie. Quand on perd pour un souffle, quand on perd pour très peu, ça laisse beaucoup plus de traces que quand on prend une raclée et on se dit on est loin du compte. Quand on n'est pas loin du compte, qu'on arrache la prolongation, on se dit c'est en train de tourner, on va y arriver, et que tu perds quand même pour très peu, ça laisse énormément de traces pour la remobilisation et la remotivation pour retrouver les mots, de se dire mais si, on va y arriver les gars, on va continuer à bosser, ça finira pas. C'est plus compliqué à trouver ces mots là que quand tu as pris une raclée et que tu dis bon, on avait passé à côté, on n'a pas le niveau, on va bosser et on finira par combler l'écart. Là, l'écart est quasiment comblé, mais tu perds quand même. Et je pense que ça reste beaucoup plus traumatisant qu'une large défaite.
Et on a souvent parlé du traumatisme de la raclée, hein, de la saison dernière, avec les Bordelais tout au long de la saison qui nous ont dit non mais ça y est, on l'a digéré parce qu'on a préparé maintenant cette nouvelle saison. Et maintenant, on va y arriver. Malheureusement, ça chute encore. Pourquoi non? Pourquoi c'est pas plus traumatisant, Cédric Emmons?
Alors pourquoi le « oh non » Parce que ils ont franchi un palier cette année, les Bordelais. L'année dernière, ils étaient heureux d'arriver en finale. Là, ils étaient là pour gagner. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une évolution. Connaissant bien Yannick Bru, je peux vous dire que là, il va se servir. Mais c'est du pain béni pour lui, pour reconstruire son équipe. Pas pour la reconstruire, mais pour la faire progresser. Il sait où il doit progresser. Il sait que dans les matchs importants, c'est la somme des petits détails qui font que tu gagnes ou que tu perds. Mais il y a une marge de progression. Ils ont progressé, cette équipe a progressé.
Mais on disait ça l'année dernière, on disait c'est bon, maintenant l'UBB a payé pour voir.
Non, ils n'ont pas payé. L'année dernière, ils sont arrivés sur la jante en finale. Il y avait plus de match, du moins. Ça, c'est, je suis d'accord. À évacuer, c'est plus simple. Mais là, ils commencent à toucher du doigt le très très haut niveau. Ce club de Bordeaux, quand même, il ressemble étrangement à la méthode de construction du Stade Toulousain. Les espoirs de Bordeaux, ils sont champions. Les féminines sont champions. Les juniors, ils sont toujours bien placés. Ils sont en train de progresser. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui peut-être arriver. Ils sont dans la construction. Des fois, tu construis dans la douleur. Des fois, tu construis aussi dans la réussite. Là, ils sont dans la douleur, mais ils ont un titre. Ils ont passé un tel cap cette année que oui, de faire un doublé, ils étaient jamais aussi proches en ayant gagné la Coupe d'Europe. Mais, elle va pas déstabiliser le club. Hier, ils ont montré qu'ils avaient des ressources mentales pour aller chercher la prolongation. Ça a montré aussi que dans l'effectif, il va peut-être falloir aller chercher un ou deux joueurs, un pack player, qui vont leur permettre de gagner ces matchs-là. J'aime pas le terme défaite encourageante, mais celle-là, elle est bonne d'espoir.
Ok, quand même encourageante, pardon, mais Yannick Bru avait dit il y a quelques semaines, avant le titre en Coupe d'Europe, nous, notre fixette, appelons-le comme ça, c'est le bouclier de Brennus, c'est pas forcément la Coupe d'Europe. Donc de perdre 2 fois de suite, ouais, mais j'entends ce que tu dis.
Cette année, ils ont fait sur les deux tableaux. Et la classe de Yannick Bru, c'est de dire, ok, ils ont été plus forts que nous, mais en sous-marin, ça va travailler épais.
Pierre Thévenet, tu voulais
pour revenir
intervenir.
Sur ce que disait Cédric, Bordeaux est en effet construit un peu comme le Stade Toulousain. Bordeaux est un club très jeune. L'UBB, tel qu'on le connaît, remonte en top 14 au début des années 2010. Donc, je pense que c'est aussi normal que ça prenne plus de temps. Et Toulouse gagne cette finale aussi parce que c'est le Stade Toulousain et que c'est leur 30e titre. Et que les Toulousains, pour marquer l'histoire du Stade Toulousain, il faut gagner les titres. Les mecs sont des machines, ils sont conditionnés pour ça. Et c'est peut-être ça qui a fait la différence hier, cette expérience des phases finales, des finales. Toulouse s'est métamorphosé, a réussi à aller chercher ce petit truc en plus que Bordeaux peut-être n'a pas encore dans son histoire.
Il y aurait eu traumatisme si c'était la 4e, 5e, 6e, comme a pu le vivre clairement. Là, il y avait un vrai traumatisme. Mais là, c'est.
Mais pas encore. Okay.
Non, pas encore.
Donc pour toi, c'est pas plus traumatisant que la défaite de 2024.
On aura un grand UBB la saison prochaine.
Ok, Simon Dutin.
Je pense que ce matin, joueurs et staff de l'UBB, ça leur fait une belle jambe de se dire qu'ils ont progressé par rapport à la saison dernière. En rugby, la différence par rapport au foot, c'est que l'équivalent de la Ligue des Champions en rugby, c'est quand même inférieur au Brennus. Et si tu demandes aux Bordelais ce qu'ils auraient préféré gagner cette saison, ils t'auraient parlé du titre de champion. Là où je rejoins Jérôme, c'est que la raclée de l'an dernier, tu peux te consoler en te disant ça arrivera qu'une fois dans notre vie, quoi. Voilà, passer à travers comme ça, se faire trouer comme ça et en prendre 56 d'écart en finale, ça nous arrivera plus. Là, cette saison, traumatisante, est-ce que c'est vraiment le bon qualificatif? Je pense qu'elle fait plus mal parce que le micro-ondes venait de sonner, tu vois, ils étaient à point, on disait qu'ils étaient arrivés, au terme d'une progression à laquelle justement. Le traumatisme de l'an dernier avait participé. On les sentait prêts, on les sentait mûrs. Ils regardaient enfin les Toulousains dans les yeux. Ils les avaient battus trois fois. Et puis hier soir, il n'y a aucun moment où personnellement, je les ai vus en mesure de battre Toulouse. À chaque fois qu'ils ont ressorti la tête de l'eau, je le disais en début d'émission, Toulouse leur a remis la tête sous l'eau. Et il y a quelque chose qui a paru implacable. Voilà. Hier. Et tu te mets à la place des Bordelais. Ah, c'était notre année. On se sentait fort.
Il n'y avait pas Dupont.
Et c'est ce que j'allais dire. Il n'y avait pas Dupont. Il n'y avait pas Monvoca. Il n'y avait pas Capozzo. Il n'y avait pas Rouma. Et tu te dis, ce sera pour l'an prochain. Et Cédric, alors non, ils n'en sont pas encore au même stade que Clermont. Mais bon, chaque fois que tu en rajoutes une, tu t'en rapproches. C'est plus une, c'est deux d'affilée. Et je disais, hier, est-ce qu'ils ont la pression? La pression, elle va se transformer en obsession. Tu t'en perds une la saison prochaine. Voilà, ça va rentrer dans les têtes.
Mais la saison prochaine, ils vont être obsédés par le bouclier de Brennus. Hein.
Oui, mais ils l'étaient déjà un petit peu cette année.
Quand t'as gagné un titre, tu as le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Et je suis d'accord, c'est pas la Ligue des Champions, on parlait à la Coupe d'Europe. Mais t'as gagné quelque chose, t'as écrit l'histoire du club. Le bouclier est à part parce que c'est le trophée de ton enfance. Tu joues pour ça. On vient de rugby de clocher, de village où on a envie de ramener le bouclier chez soi. Mais je vois là-dedans une énorme progression et un ressort tellement facile à attendre pour l'année prochaine.
Et encore une fois, pardon Cédric, mais le ressort aussi au sortir de la défaite, de l'humiliation l'année dernière, on avait dit la même chose. On avait dit, mais le ressort est tellement évident sur la revanche, sur le.
Oui, ils l'ont pris ce ressort. Ils battent Toulouse trois fois et qu'ils vont chercher la Coupe d'Europe. Donc il n'y a pas ce titre en effet du Brennus, mais la saison de Bordeaux est réussie et c'est ça aussi qu'il faut.
Les matchs de poule, hormis le match éliminatoire en Coupe d'Europe, c'est pas la même chose qu'une finale.
Marion Bartoli.
Alors moi, je suis pas sur la même longueur que Jérôme sur le fait de la branlée, mais qui fait pas mal. Pour moi, quand on est sur un terrain, alors je parle pour mon cas personnel, mais en tennis, c'est beaucoup plus dur de jouer une finale et de prendre 6-1-6-0 ou 6-1-6-1 ou de prendre un 3-7 en 1h30 sur une finale de Roland-Garros que de perdre en ayant une balle de match ou en étant extrêmement proche ou de pousser son adversaire en 5-7. Je trouve que le fait de perdre avec autant d'écart l'année dernière laisse beaucoup plus de traces parce que tu te dis qu'en fait, alors oui, peut-être qu'il y a des excuses, oui, ils sont arrivés fatigués, oui peut-être ils sont passés à côté, mais tu dis que là, en fait, la finale, tu l'as pas jouée. C'est-à-dire qu'il y avait qu'une seule équipe dans la finale. Il y avait personne d'autre sur le terrain. Et tu te fais humilier dans toutes les déclarations derrière dans la presse pendant au moins un mois. Et tu peux réparer cette humiliation qu'en rejouant une finale sur le même adversaire. Et pour moi, justement, ils ont été capables de démontrer hier que cette humiliation, ils l'avaient digérée et qu'ils ont poussé Toulouse dans leur retranchement les plus ultimes. Et d'ailleurs, quand on écoute Mathieu Jalibert, alors bien sûr que ça fait toujours mal. Bien évidemment que de perdre, c'est jamais agréable. mais il dit on peut lever la tête, on peut être fier de nous, c'est extrêmement constructif, on va pouvoir bâtir là-dessus. Moi, je suis totalement dans cette lignée-là. Je pense que là, ils se sont dit, bah voilà, effectivement, on a peut-être fait preuve d'un petit peu d'approximation à des moments donnés. Comme l'a dit Cédric, ce genre de match, ça se joue à une plume d'un côté, et que cette plume, si on est capable de faire d'être un peu plus rigoureux dans ces moments extrêmement importants, on va être capable éventuellement l'année prochaine de faire pencher la balance de notre côté par rapport à cette année. Mais je trouve ça beaucoup mieux quand tu sors d'un moment d'une finale en étant aussi proche et en étant totalement acteur de cette finale par rapport à passer complètement à côté par l'année dernière en se disant, mais là finalement, c'est Toulouse. Et puis nous, on n'existe pas du tout.
Cette année, ils ont eu une balle de match.
Cette défaite d'hier, tu manques une énorme opportunité de faire accélérer ta progression de ton club. C'était une grosse opportunité avec les absents, avec le jeu un peu bafoué des Toulousains ces dernières semaines. T'es passé tout près. Et le sentiment qui te reste, c'est, et si c'était pas finalement cette année-là qu'il fallait y être? Parce que même l'an prochain, t'es même pas sûr d'y être en finale.
Mais t'es jamais sûr de rien en sport, mais ils ont tellement progressé qu'ils se donnent beaucoup plus de
certitude. Ils ont eu quand même la balle de match. Ils en ont eu. Après, dans la construction du club, est-ce que aussi les festivités qui ont traîné, duré de la Coupe d'Europe a pas laissé des traces? Yannick Bru l'a dit, hein, il y a eu un peu trop de boissons alcoolisé, on va dire, consommé après la finale. Ils l'ont fêté. Donc, voilà, dans la construction, pour grandir, il va falloir gérer tout ça. Mais de passer, alors je sais pas si mon terme est bon, mais passer d'une roue de vélo, c'est ce qu'on dit au tennis quand tu prends 6-0, 6-0, oui. C'est ça. Là, ils ont des balles de match.
Double roue de bicyclette.
Voilà. C'est marrant parce que vous parlez de tennis. Dans quelques instants, on parlera d'Yannick Sinner qui est non pas dans la même situation, mais qui a failli, qui a touché du bout du doigt Roland Garros et qui n'y est pas arrivé.
Je te rassure, il va le gagner assez rapidement.
Mais,
ne t'inquiète pas pour ça.
Mais en tout cas, on vous posera la question et on aura ce débat dans quelques instants. Mais restons un instant sur l'UBB, il y a Guillaume, supporter bordelais, qui est avec nous. Salut Guillaume.
Oui, bonjour à tous, comment ça va?
Mais attends, mais t'as la pêche, Guillaume.
Ah, ça ils ont la pêche ce matin. Ils ont la pêche ce matin.
Mais bien sûr, j'ai la pêche. Non, bien sûr que j'ai la pêche. Pourquoi? Parce que, bon, oui, bien sûr, mais quand on regarde la physionomie du match, honnêtement, et tout à l'heure, vous l'avez répété, mais c'est quand même un peu un miracle d'aller en prolongation. Si on regarde la physionomie du match, quand on regarde la première mi-temps.
10 minutes de la fin, t'es mené 10 points. C'est sûr.
Oui, mais voilà, non mais on prend deux jeunes, on fait des fautes dans tous les sens. La qualité de Bordeaux, normalement, c'est la défense et pas faire de fautes. On fait plein de fautes, on prend deux jeunes, Penaud marque un essai à 14 contre 15 et on revient et on les fait douter. Voilà. Après, comme vous avez dit, bien sûr que la première mi-temps de la prolongation, ben, on a eu les armes, mais on n'a pas réussi. Mais quand on voit, honnêtement, toute la physionomie du match, toute la saison qu'on fait, bon, on est quand même champion d'Europe. C'est hyper compliqué. Et puis, moi, je disais avec les potes, on en parlait, je disais, mais Toulouse, ils ont trop l'habitude, ils gagnent toutes leurs finales. Et nous, ben, on est encore jeunes. Hein.
Non.
Franchement, c'est incroyable d'arriver à ce niveau-là. Et ben oui, on n'est pas loin. Mais c'est Toulouse. Moi, j'avoue. Hein.
Cédric est en train de dire qu'il a pas gagné lui toutes les finales avec le Stade Toulousain. C'est
exact,
ça.
Ouais.
Ouais, mais t'en as gagné des titres quand même.
Oui, je me plains pas. Mais voilà. Ouais, avant de gagner, j'en ai perdu deux.
Oui, tu en as perdu. Bon, c'était pas trop traumatisant, tout va bien.
Non.
Je voudrais t'entendre sur parce que tu l'as rappelé, Yannick Bru qui dit en conférence de presse, ça m'a surpris tout de même. Alors en plus, on adore Yannick Bru et c'est quelqu'un de bulbé, d'intelligent, d'extrêmement compétent qui vient du Stade Toulousain. J'ai été très étonné qu'il dise après le match, bon bah les meilleurs ont gagné.
Mais parce qu'il est lucide, mais c'est un Toulousain. Quand tu perds, tu te tais et tu dis bravo au vainqueur.
Mais il y a pas toujours un peu ce complexe d'infériorité,
mais
les Bordelais là.
D'infériorité, il est réaliste, il a observé que Toulouse avait été plus fort, ils se sont fait rentrer dedans les Bordelais devant, ils avaient dominé dans ce secteur-là. Après il est factuel dans son analyse. Alors est-ce que après ça lui fait mal de le dire? J'en suis convaincu. Mais il peut
Toulouse
pas se cacher.
Meilleur hier.
Et
Yannick Bru dit, je vais avoir beaucoup de mal à revoir ce match. J'ai pas envie de dire qu'on a fait une belle saison alors qu'on vient de perdre. Évidemment qu'ils sont déçus et qu'ils sont dégoûtés d'avoir perdu ce match. Mais il faut vraiment comprendre aussi que l'intensité hier était telle qu'en fait, en zone mixte, tout le monde était, rincé. Toulousain, Bordelais, hein. Les Toulousains, ils parlaient doucement, les Bordelais pareil. Tout le monde chuchotait presque. Il y avait plus de gaz chez personne. Et donc, il y avait pas non plus des Toulousains qui sautaient partout et des Bordelais qui étaient en larmes. C'était pas ça. C'était plus, il y avait aussi un côté bravo, beau combat, le meilleur à gagner. Exactement. Vous avez été plus fort. Et voilà, c'était plutôt.
Il y avait deux champions sur la pelouse.
Exactement.
Après, l'expérience, Ramos fait la différence. Mais
quand je vous entends, Est-ce que vous êtes limite en train de me dire, et pourtant le match était très spectaculaire, on se souviendra longtemps de cette finale, mais est-ce que Bordeaux, par rapport à ce qu'ils ont pu proposer tout au long de la saison, Bordeaux est passé à côté?
Oui, ils étaient en dessous.
Yannick Bru le dit, hein. Yannick Bru dit, on n'en fait pas la finale qu'on doit faire, on est en dessous de notre niveau. Ils ont déjoué,
ils ont utilisé beaucoup le pied, ils ont voulu mettre les Toulousains au fond, les duels aériens ont été perdus stratégiquement, ils ont voulu faire de la, alors j'aime pas le terme dépossession, mais ils ont fait 1-2 et après ils ont rendu les ballons. Comme d'habitude, ils sont très bons, très hauts, ils ferment, ils arrivent à ralentir le jeu adverse, sauf qu'ils l'ont pas fait. Et parce que le Stade Toulousain était un Stade Toulousain de finale. Et
mais ça rentre pas dans la tête, ça, des joueurs à un moment donné. C'est-à-dire que tu te retrouves en finale face au Stade Toulousain et tu te dis, bon, bah.
Pas encore.
Et il en faut combien des défaites perdues pour que ça.
Je sais pas, parce que.
Des défaites perdues où
des finales perdues.
Et je suis Toulousain, donc tu sais qu'après 2 ans, tu gagnes, donc voilà.
Mais par contre, tu connais pas ça, toi. Les Toulousains sont insupportables, hein. On vous aime, évidemment.
Ce qui est sûr, j'y sais, c'est que les Bordelais savent, et tous les clubs de top 14 savent la force des Toulousains en finale. Toute la semaine, les Bordelais nous ont répété, Toulouse, l'année dernière, nous ont complètement surpris en finale. On s'attendait pas, c'était pas les mêmes mecs que le reste de l'année. Donc après, qu'est-ce qu'il faut à Bordeaux pour arriver à atteindre ce stade de compétitivité, de l'intensité qu'ont mis les Toulousains hier? Ça faisait peut-être un an qu'ils ne l'avaient pas mis sur une rencontre et ils ont réussi à sublimer au meilleur moment. C'est peut-être ça la marche que doivent franchir encore les Bordelais, mais en tout cas ils sont au courant que si Toulouse ne perd pas avant la finale, ça va être compliqué de les battre en finale, bon, ça c'est sûr.
Il faut saluer en tout cas la saison bordelaise tout de même, avec un titre, le premier dans l'histoire en Champions Cup, et une finale de top 14.
Et ils amènent un vent de fraîcheur, parce que maintenant il y a quelqu'un qui peut parler en face du Stade Toulousain. Dans ma génération, c'était Stade Français, c'était Toulouse, il y a eu Biarritz, mais
regarde La Rochelle pendant 2 ans et derrière bon
oui.
Mais non, mais ce que je veux dire, que dans le paysage, une grande rivalité, oui, dynastique,
mais on n'est pas sûr.
Mais on n'est pas sûr, l'avenir nous le dira, mais dans le paysage rugbystique, ça fait du bien d'avoir un club qui peut parler, se mettre autour de la table ou regarder dans les yeux le Stade Toulousain.
Oui. Enfin, c'est quand même le Stade Toulousain qui becte, hein, pour l'instant. Qui mange, hein. Les autres, ils mangent froid à côté, hein.
En Europe, ils mangent en Europe.
Ils peuvent aller s'installer à table, mais.
Ils peuvent manger à Londres, mais ils mangent pas
pour servir, hein. 11h27. Merci beaucoup, Pierre Thévenet, d'avoir été avec nous. Merci, Guillaume. Au 32-16, on va poursuivre la discussion avec une autre finale de légende. Finale perdue pour Yannick Sinner. Alcaraz est-il entré dans la tête de Yannick Sinner? On se pose la question avec notamment Marion Bartoli en direct de Wimbledon. Ça commence demain, le 3e Grand Chelem de la saison. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h31 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Cédric Emmons, Marion Bartoli, Jérôme Pinault, Simon Dutin. Dans 10 minutes, le débat caché. Il va falloir réagir sur une information et y mettre tout votre cœur. Évidemment, je compte sur vous, mes GG, pour être extrêmement performante comme d'habitude pour le débat caché. Ben, il va vous plaire, je vous le dis. Enfin, je vous dis jamais, il va pas vous plaire d'ailleurs, mais celui-là, il va vous plaire. Enfin, j'espère. Tout de suite, Wimbledon.
Belle accélération d'Alcaraz, ça ne suffit pas. Il est là, Sinner, il est là. Il montera 0-40,
ça sort de 2 mètres, Carlos. 0-40, 3 balles de titre. 3 balles de Roland pour Yannick Sinner. Il craque total, hein.
Oh, il finit sur un passif, deux coups droits, Carlos Alcaraz. Cette finale mythique,
c'est incroyable.
S'achève sur un winner. Il a déjà serré la main de l'arbitre Sinner et il va aller vers son adversaire, vers son bourreau. Alcaraz remporte Roland après avoir sauvé 3 balles de match.
RMC, le dossier des GG.
Ah, c'était il y a 21 jours. Quel pied cette finale, évidemment, de Roland Garros. Et il y a 21 jours, nous avions quitté Yannick Sinner comme ça.
Aller en finale et la perdre, c'est difficile à accepter car j'ai eu de nombreuses occasions. Un break d'avance dans le quatrième set, 3 balles de match. Il y a eu beaucoup d'opportunités que je n'ai pas su saisir. Mais si tu ne regardes que le négatif, tu ne t'en remettras jamais. Je crois que je me suis amélioré comme joueur depuis l'an dernier. C'est positif, donc je vais continuer à travailler.
Result hurts, yeah. 3 semaines plus tard, le numéro 1 mondial remet ça à Wimbledon, peut-être pour prendre sa revanche face à Carlos Alcaraz après cette donc finale légendaire. A-t-il vraiment digéré cette défaite record en 5-7 après avoir mené 2-0 avec des balles de match? Et toute la question, évidemment, avant ce 3e grand chelem de la saison. Une information importante, ou pas, Marion nous le dira, mais juste avant le tournoi londonien, l'Italien a pris la décision forte de se séparer de 2 membres importants de son équipe, son préparateur physique et son kiné. La raison, selon la presse italienne, le manque de discrétion des 2 hommes jugés trop bavards par le clan Sinner. Je prends évidemment des précautions oratoires, c'est selon la presse italienne. Carlos Alcaraz est-il entré dans la tête de Yannick Sinner, selon vous? Oui ou non? Marion Bartoli?
Non.
C'est non. Jérôme Pinault?
Non plus.
Cédric Emans?
Oui.
C'est oui. Simon Dutin?
Oui.
C'est plutôt oui. C'est encore un 2 contre 2. Je vous adore, les juges.
L'extérieur contre à domicile. On est tous les deux là.
Vous savez quoi? Vous aurez peut-être double prime, parce que vous n'êtes jamais d'accord. Marion, pourquoi non? Et déjà, peut-être nous parler de cette information dans le clan Sinner.
Alors, j'ai croisé Yannick Sinner hier qui marchait dans les rues de Wimbledon pour se rendre sur son cours d'entraînement. Effectivement, on a tous été assez surpris dans le monde du tennis par cette décision parce que ce sont deux membres de son équipe qui l'ont fait énormément progresser, deux membres de son équipe qui sont des gens extrêmement expérimentés, qui ont déjà travaillé d'ailleurs avec Novak Djokovic, qui sont passés d'ailleurs de l'équipe de Novak Djokovic à l'équipe de Yannick Sinner. Il faut quand même rappeler que Yannick Sinner, pour ses premiers tournois de reprise, qui était le tournoi de Rome avant Roland Garros, a atteint deux fois la finale sur terre battue, qui est de loin pour lui sa pire surface. Donc j'étais assez surprise de cette information. Très honnêtement, personne ne sait les raisons exactes du fait qu'il ne fasse plus partie de son équipe. J'ai essayé de me renseigner pour obtenir des informations aujourd'hui d'ailleurs, mais quand on analyse ce match et cette finale, on pourrait faire un parallèle assez saisissant avec cette finale entre d'ailleurs le Toulouse et l'UBB.
Mais oui, alors qu'elle est
cette finale se joue absolument. Non, mais cette finale se joue absolument sur rien et elle est totalement encourageante pour Yannick Sinner. C'est-à-dire que deux semaines avant, en finale de Rome, il n'existe pas. Mais il y a un premier set où il perd 7-6 et puis derrière il prend 6-1. Et là, Marion, Carlos Alcaraz s'en sort, mais c'est même pas s'en sort sur du miracle. C'est au-delà du miracle. C'est-à-dire qu'il rejoue cette finale 10 fois. Certainement que c'était la seule fois où il pouvait la gagner dans ce scénario-là et dans ce contexte-là. Ce qui a rendu cette finale extraordinaire, c'est que Carlos Alcaraz, par son génie et par cette capacité à trouver une accélération et des coups supplémentaires, et surtout à les tenter dans des moments qui paraissent totalement désespérés, à ce moment-là du match, c'est passé et on est passé dans une dimension tennistique qui est devenue totalement exceptionnelle. Mais ne vous détrompez pas. Quand le dur va arriver avec la tournée sur dur américaine, les trois derniers grands chelems sur dur, qu'est-ce qu'elle les a gagnés? C'est Yannick Sinner. Et Yannick Sinner sur Carlos Alcaraz sur dur sera l'immense favori pour aller jouer ses matchs, surtout sur des finales d'un tournoi du grand chelem. Donc, rentrer dans sa tête, absolument pas. Sur le plan tennistique, Yannick Sinner a comblé.
Pardon Marion, mais c'est comme si Sinner, il menait que, si on prend un autre sport, c'est comme s'il y avait 40-0 et que tu te fais reprendre. Tu vois c'est traumatisant. Elle est traumatisante.
Elle est toujours traumatisante. Mais
il est rentré dans sa tête. Il a fait déjouer.
Non, il n'a pas du tout déjoué à ce moment-là. Il a raté un coup droit d'attaque. Il en a réussi des dizaines pour arriver à cette position-là de ce match-là. À ce moment-là, il le tente. Il le rate de 5 cm dans le couloir. Tu peux rater une balle de 5 cm dans le couloir, mais non, absolument pas, il n'est pas rentré dans sa tête. Rentrer dans sa tête, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu rentres sur le terrain, tu te dis, je ne vais plus pouvoir battre ce joueur. Yannick Sinner, mais en aucun cas, va rentrer sur le terrain sur les prochaines confrontations contre Carlos Alcaraz en se disant, ben là, en face de moi, je ne vais plus pouvoir battre ce joueur.
Moi,
en
je te dis, dans le momentum, quand la balle va arriver, il n'est pas sûr de la gagner. La balle de match.
Comme d'ailleurs, même si Novak Djokovic a battu Carlos Alcaraz sur leur dernière confrontation sur des matchs extrêmement importants, dont la finale des Jeux Olympiques pour la médaille d'or, où Carlos Alcaraz a fini en pleurs dans les bras d'Alex Correia après son interview, avec une image qui était extrêmement marquante. Ils se sont rejoués à l'Open d'Australie cette année, et c'est Novak Djokovic qui a gagné quasiment sur une jambe, puisqu'il s'est blessé pendant ce match. Mais en aucun cas, tu peux dire non plus que Novak Djokovic est rentré dans la tête de Carlos Alcaraz, et que systématiquement, du coup, maintenant, à chaque fois qu'ils vont jouer, c'est Novak qui va gagner. Il le sait très bien, d'ailleurs, Novak. Ce sont des matchs entre des immenses champions qui ont une différence tennistique qui est infime, et qui est tellement infime que sur chaque match, il peut y avoir des scénarios qui sont multiples et variés. Mais en aucun cas, les uns sont rentrés dans la tête des autres. Non, je ne suis pas d'accord.
Cédric Emans.
Moi, je pense, honnêtement, dans un sport individuel, quand tu es dans un sport d'équipe, tu peux te reposer sur les autres. Il est rentré dans sa tête, pourquoi? Parce qu'il va y penser. Marion, tu as été une grande championne, tu sais qu'à un moment donné, tu peux avoir le bras qui tremble parce que tu as l'histoire, le vécu, le match que tu devais gagner, que tu ne pouvais surtout pas perdre et que tu as perdu. Et c'est à ce moment-là que, pour répondre à la question, oui, il est rentré dans sa tête parce qu'il a fait déjouer, parce que sur un match qu'il ne devait pas perdre, il a perdu. Alors oui, les surfaces sont différentes, les matchs peuvent être différents, le tennis peut se jouer différemment.
Mais l'ascendant psychologique, ça existe en sport.
Mais c'est une certitude. Et là,
c'est pas un match qui ne devait pas perdre, c'est un match qui ne devait pas gagner. Avant cette finale de Roland-Garros, tous les spécialistes et les analystes, au vu de la finale de Rome et au vu de la performance de Carlos Alcaraz depuis le début de la saison sur terre battue, où il avait tout gagné, à part une finale à Barcelone qui perd sur Holger Rune parce qu'il se blesse en finale, Carlos Alcaraz devait marcher sur cette finale. on a tous été surpris par la capacité à Yannick Sinner non seulement de résister mais de mener sur Carlos Alcaraz. Aucun spécialiste tennis, aucun analyste n'avait vu, n'avait anticipé la capacité de Sinner à aider autant son niveau.
Je vais dans ton sens. Alors, si Sinner devait jamais gagner Roland Garros, il n'a pas gagné. Mais quand tu as la possibilité de le gagner et que tu ne le gagnes pas, est-ce que tu ne rentres pas dans la tête de ton adversaire?
Je pense qu'il le regagnera très rapidement.
Ok, Simon et Jérôme, Simon Dutin.
Bah pour répondre à la question, voilà, tout dépend de ce à quoi tu circonscris l'expression rentrer dans sa tête. Évidemment, si c'est se dire non, je ne le battrai jamais, j'en suis incapable, non, là je j'achète pas. Bah, en revanche, Sinner a été le premier à dire dans son discours d'après-match à Roland-Garros qu'il allait quand même continuer à y penser beaucoup, que ça allait être dur à oublier, à digérer. Alors après, est-ce qu'il justement il va pouvoir se servir de ça pour franchir le cap et battre dans le futur Alcaraz. Je pense, moi j'ai répondu oui parce que ça ne serait pas surpris si il enchaînait quand même quelques défaites face à Alcaraz avant de réussir à le battre. Il y a eu d'autres exemples. Wawrinka, il avait perdu 12 fois d'affilée contre Nadal, il finit par le battre en finale de l'Open d'Australie. Mais bon, les 12 défaites d'affilée, elles sont pas, tu vois, sorties de nulle part. Murray, ça avait été pareil avec Djokovic avant de finir par le battre au Masters en 2016. Clijsters, elle n'arrivait pas à battre Hénin, elle a fini par la battre en finale de l'US Open de 2005. Je veux dire, si tu peux avoir une adversaire dans la tête, parce que Sharapova, elle avait battu deux fois Serena, et après ça, elle a perdu 19 fois de suite, elle l'a plus jamais rebattue. Donc, ça peut arriver, même à ces altitudes-là, avoir un blocage. Sinner, je lui souhaite, en effet, qu'il arrive à se débloquer, mais bon, si jamais, je sais pas s'ils peuvent se rencontrer dans le tableau à Wimbledon, mais bon.
Finale.
Ouais, alors je vois pas Sinner aller forcément en finale, mais bon, a priori ce serait avantage Alcaraz. Mettons que, t'imagines, si Alcaraz le rebattait en finale pour un deuxième grand chelem consécutif, ça commencerait à devenir compliqué, mais bon, rien n'est
figé. Jérôme Pinault.
Bah déjà, après avoir dit que Sinner a des gros problèmes de gestion dans son staff, je pense que non, il n'a pas. C'est le duel, c'est toujours pareil. Quand t'es au sommet de ton sport, il y a toujours quelqu'un en face de toi, ton adversaire principal. Et l'ascendant psychologique, il varie selon les victoires et les défaites. La défaite de Roland Garros qui a été terrible sur le plan résultat, mais comme le dit Marion, c'était pas forcément prévu pour Sinner d'être vainqueur de Roland Garros, enfin Alcaraz sur terre. Il va basculer l'étape psychologique de Sinner basculera quand il va rebattre Alcaraz. Et alors à Wimbledon, ça semble peut-être compliqué, mais très vite sur le dur en fin de saison, il rentrera lui dans le game. Et du coup, c'est l'un et l'autre. C'est deux grands champions à chaque fois. Ça bascule lorsque on bat l'autre. Évidemment que une série de victoires fait un peu plus effet et on rentre un peu plus dans la tête chaque victoire de son adversaire. Mais ça ne l'empêche pas l'adversaire de te battre un jour, donc c'est un grand champion quand même, Sinner. Alors moi, avec toutes les réserves que je garde autour de son passé et de cette année surtout, ça reste un immense champion qui sait gagner après une défaite. Et c'est ça qui fait la force de ces garçons-là et de ces personnes-là. Il y a des marqueurs, mais ça doit permettre d'être meilleur. Et je pense que Sinner en est capable parce que
mais c'est intéressant, vas-y. Que tu évoques ça, Jérôme, parce que justement, ils se sont joués avec Novak en finale du Masters à Turin. Et Novak avait gagné en 2-7. Il se rejoue quelques jours plus tard sur un match de Coupe Davis extrêmement important. Novak a 3 balles de match consécutives contre Yannick Sinner. Et c'est finalement Sinner qui arrive à battre pour la première fois.
Il est bien rentré dans sa tête puisqu'il a changé son staff. C'est bien qu'il a.
Alors là, c'est différent. Là. Quand un mec qui a eu des problèmes avec son staff pour dopage vire tout le monde en disant vous parlez trop, c'est plutôt inquiétant. Moi, nous, ça arrive dans le vélo, c'est scandale. Hein,
C'était des membres avant de l'équipe. L'équipe de Novak Djokovic et il avait demandé à ce préparateur physique et à ce kiné de venir après donc son histoire de dopage.
Non mais je viens d'aller voir l'article dans la Gazzetta, c'est typiquement la raison, c'est il parle trop. Hein.
Oui, en tout cas c'est la raison annoncée par la presse italienne. Marion va avoir plus d'infos.
Oui,
juste les amis, vous les sportifs là, je voudrais avoir votre avis. Et je commence par Marion très rapidement. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est entré dans ta tête ou toi tu penses que t'es entré dans la tête de quelqu'un? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que t'as un exemple à donner?
À qui tu poses la question? À Marion.
À Marion pour l'instant, mais à vous aussi, à Jérôme et à Cédric. Est-ce qu'il y a, un joueur ou un club ou bah, écoutez, qu'est-ce qu'il y a?
J'ai bien une réponse, mais pas là maintenant.
Oui, enfin, vas-y Marion.
Non, mais tu vois, même Serena, qui était bien évidemment pour moi l'adversaire de loin la plus difficile à battre, je suis quand même arrivée à la battre une fois à Wimbledon. Alors ça reste qu'une fois, et bien sûr que toutes les autres fois, elle m'a écrasée, elle m'a écrabouillée, et je sortais du terrain en ayant la sensation de ne pas... En fait, que le match n'était pas entre mes mains, c'est-à-dire que ça ne dépendait pas de moi, mais malgré tout, je suis arrivée à la battre une fois. En fait, si tu veux, un adversaire rentre dans ta tête que si tu le laisses rentrer. C'est-à-dire que si tu t'auto-persuades que tu n'arriveras pas à le battre. Mais ça, tout dépend de ta capacité mentale à affronter une difficulté.
Tu vois, Jean-Christophe,
et je ne crois pas qu'en fonction de ce qu'ils ont été capables de réussir, tous les deux, que ça soit Sinner, Djokovic, ou les trois, pardon, même, Sinner, Djokovic ou Alcaraz, avec les capacités mentales qu'ils ont, je ne crois pas qu'ils laisseront même l'éventualité d'envisager qu'un adversaire pour entrer dans leur tête.
Faut pas oublier qu'ils sont aussi entourés de prépa mentaux et que c'est l'arme à tout cela, c'est se focaliser sur soi-même, sur son jeu et ses perfs, et ne pas ressasser le passé. Autant faire de l'imagerie positive, oui, autant là.
C'était pas ma question, les amis. Moi, je veux savoir, Jérôme, est-ce qu'il y a un coureur, quand t'étais échappé avec lui, tu t'es dit, oh non, je vais pas gagner? Ou l'inverse, est-ce que...
Non, nous, c'est plutôt sur le collectif. Je pense que nous, avec le collectif, à l'époque, Brioche la Boulangère, bonjour.fr, dans les années 2004-2005, on était rentrés dans la tête, on dépend que de ça, nous.
Non, mais c'est
on était rentrés, non, dans les équipes françaises, notamment. Après, évidemment, tu as des coureurs, avec qui tu arrives 2, 3, 4 fois pour la gagne, et à chaque fois, ils te battent, tu commences à te poser des questions. J'ai pas d'exemple, mais moi, nous, c'est un sport, on est 190 au départ, donc c'est rarement le même. Dans un duel, au sommet, quand ils sont en train de se taper dessus pour le tour, notamment pour un classement général, ouais, je pense que on parle aujourd'hui Pogacar Vingegaard. Clairement, Vingegaard, il doit pas très bien dormir parce qu'il se demande comment il va le battre. Bon, a priori, Pogacar organise des tutos pour expliquer à ses adversaires comment ils peuvent éventuellement faire. Mais c'est ça, c'est à ce niveau-là du one-to-one. Nous, il y a moins de one-to-one dans le vélo quand même.
Ok, bon, on retiendra que de toute façon à ton époque, c'était toujours Lance Armstrong qui gagnait au final.
Évidemment, évidemment. Enfin, qui gagnait pas.
Il y avait une bonne vanne.
Oui, je voulais terminer avec une pointe de lourdeur, évidemment. Tu vois, Marion disait, on rentre dans ta tête que si tu laisses rentrer, tu aurais pas dû me laisser rentrer dans ta tête. Tu me battras plus jamais au golf. C'est un peu
dommage.
Et j'en profite, puisque à une époque je la sortais une fois par émission.
Il faut souligner donc les non-qualités mentales de JC.
Ouais, oh là, il est bien fragile, c'est vrai. Oula, non, mais à une époque, je la sortais une fois.
C'est attaque gratuite.
À une époque, je la sortais une fois par
émission. Moi, je prends.
Une fois par émission.
Je
suis bonne passe.
Vas-y, Simon.
Non, mais je rappelle, parce que je m'en suis servi pour notre débat rugby. Vitas Gerulaitis, le champion américain. Je l'ai répété. Il a perdu 16 fois de suite contre Jimmy Connors. Il le bat enfin au Masters en 1980 en lui tend le micro et dit que ça vous serve de leçon. Personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois d'affilée. C'est extraordinaire.
Ok, un petit exemple à donner rapidement avant de passer à autre chose.
Moi, la seule personne qui est rentrée dans ma tête, c'est mon épouse.
Oh, oh là, c'est beau. C'est oh là là, c'est beau.
Non, parce que je viens d'avoir un SMS sur la route, donc je sais qu'on vous écoute.
Ça sera dans le casard d'or, ça.
Comment elle s'appelle, ton épouse?
Justine.
Elle nous écoute?
Oui.
Eh ben, on embrasse très fort Justine. Très voilà. Bien, et merci. Bravo d'avoir dompté comme ça.
On peut faire des coups à nos maris respectifs aussi.
Dompté Cédric Emmons, bravo. Et on retiendra ce moment canard d'or magnifique de Cédric.
On va faire des dédicaces personnelles.
Ouais, ça y est, c'est fait. Allez, 11h46, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Le débat caché, restez bien encore affûtés, hein, mais GG, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
La dernière ligne droite des Grandes Gueules du Sport avec ce matin Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Cédric Emmons, Simon Dutin. À partir de midi, les paris RMC autour notamment de Paris Saint-Germain. Inter Miami, c'est l'huitième de finale aujourd'hui de la Coupe du Monde des Clubs. C'est à 18h à suivre sur RMC. On vous donnera évidemment toutes les meilleures cotes. Mais tout de suite, il nous reste 5 minutes, 7 minutes. Ça va être bon, c'est le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Ah, vous ne savez rien, mais GG, vous êtes dans le noir. Je suis dans le chart. Et oui, vous ne savez rien, et pourtant il va falloir répondre à l'une de mes questions savoureuses, comme d'habitude. Le débat caché du jour. Votre guet-apens. C'est ça.
Et je suis avec Bruno Genesio déjà. Attends, on les laisse égaliser après.
Avec Jimmy Briand. Jimmy Briand, juste pour la frappe ensuite. Oh, les balles, voilà l'égalisation.
Express.
Excusez-moi, Bruno.
L'égalisation Express signée Salibur, le pied magique.
Incroyable. À cette époque-là, Paganelli avait tout vu. Il avait commenté limite un but en direct. Alors pourquoi je vous montre cet extrait ? C'est une révolution qui se prépare en Première Ligue. Le championnat anglais est sur le point de modifier complètement son dispositif télé pour la saison prochaine, un tournant spectaculaire dans les couvertures des matchs. Des caméramans au bord de la pelouse pourront désormais entrer sur le terrain quelques secondes pour filmer au plus près les célébrations des joueurs. C'est ce qui se passe déjà aux États-Unis en NFL. Ces caméramans seront également autorisés à rentrer dans les vestiaires, sauf pendant les causeries évidemment de l'entraîneur. Autre innovation, l'apparition des interviews en bord-terrain, comme Paganelli, pendant les matchs, à peine remplacés, les joueurs qui regagneront leur banc pourront être interviewés, alors que le jeu évidemment continue. Un ensemble de nouvelles mesures négociées par les diffuseurs face au prix record des nouveaux droits télé en Angleterre, 7,8 7,8 milliards d'euros sur 4 ans, rendez-vous compte. Alors ces innovations, parce que c'est la question désormais, est-ce qu'elles vont vraiment avoir lieu, parce qu'elles vont dépendre de la coopération des clubs, par exemple Arsenal ou Manchester City, qui organisent déjà des documentaires pour filmer en inside dans leur vestiaire. Eh bien, ils pourraient voir d'un mauvais œil cet élargissement des droits de la Sky et de qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il lève le doigt, Cédric Emmons ? J'ai pas terminé.
Ça se fait déjà dans le rugby, non ?
Mais on parle pas de rugby, on parle de
vrai sport. C'est pas une innovation.
Oh, c'est pour
Cédric.
Le foot. Mais non, on n'est pas ouvert.
Mais non, c'est pas une innovation. Mais ça arrive, c'est déjà fait.
Mais pour le foot, mon cher Cédric, vous avez tout vu avant tout le monde, les amis, même les troisièmes mi-temps.
Non, mais surtout, les joueurs vont pouvoir éventuellement porter des caméras sur eux.
Oui, Marion.
Oui. Les joueurs vont pouvoir aussi porter des caméras sur eux.
Chacun y va son petit commentaire. Est-ce que je peux poser ma question dans cette émission tout de même ?
Pardon.
Je suis encore le boss, hein ?
Oui.
Depuis pour très longtemps, mais encore, les amis.
Pardon le boss.
Alors, ma question. Un peu taquin, c'est vrai. Est-ce que vous y croyez en Ligue 1 ? Tout ce que je viens de vous dire, là. Est-ce que vous y croyez en Ligue 1 ? Oui ou non ? Simon Dutin ?
Oui.
Oui. Marion Bartoli ?
Oui.
Oui. Jérôme Pinault ?
Bah, si on a un diffuseur, oui.
D'accord, merci Jérôme. Cédric Emmons.
Pour l'instant, on est mal barré.
Tout le monde est d'accord, pas de débat.
Tout le monde est d'accord. Vous y croyez en Ligue 1, véritablement. Vous pensez que les clubs vont laisser.
Bien évidemment.
Ok, bah vas-y Marion, commence.
Bien évidemment, on est de toute façon dans un écosystème financier où le sport a besoin d'un diffuseur pour le diffuser. Jérôme le dit avec une pointe d'ironie, mais il a totalement raison. Et les diffuseurs aujourd'hui, ils veulent quoi ? Ils veulent des accès à des moments et à des endroits où les téléspectateurs ont envie d'être.
Ah mais ça, que le diffuseur les veuille, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais
oui,
les clubs.
Mais comme de toute façon, on va regarder le match comment ? À la télévision par le diffuseur majoritairement. Alors bien sûr, il y a ceux qui ont accès au stade, mais le reste, ceux qui payent les droits télé, ceux qui payent leur abonnement, c'est bien les téléspectateurs. Donc en fait, pour que la Ligue 1 continue à être attractive, si en plus les autres championnats s'y mettent, il faut absolument qu'ils suivent le rythme. Et de toute façon, on y arrivera. On sait très bien que les technologies finissent toujours par arriver en France, et bien sûr qu'on va y arriver parce que c'est l'intérêt global du football français d'être au même niveau que les autres championnats européens et donc d'être dans les mêmes innovations pour pas que le téléspectateur français se dise finalement dans les autres championnats on me propose un contenu qui est beaucoup plus intéressant, ça m'intéresse lorsqu'un joueur sort du terrain d'avoir son propos avant qu'il soit assis sur le banc, ça m'intéresse d'avoir une caméra embarquée pour voir finalement comment le joueur se positionne sur un terrain, ça m'intéresse d'avoir toutes ces innovations et je les ai pas dans mon championnat en Ligue 1. Donc bien sûr qu'il
Ça fait combien de fois qu'on parle de la sonorisation des arbitres en Ligue 1, ça devait voir le jour cette année ou l'année d'avant et puis finalement
mais ça va arriver,
ils le font pas.
C'est pas intéressant.
Non mais c'est la télé-réalité, on va de plus en plus vers de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'au plus près du sport et Marion a raison, on a besoin de ces petits moments, donc il ne faudra pas aller trop loin non plus, mais tu as besoin de ces petits moments pour vendre ton produit.
Et alors déjà, on copie tout ce que font les anglo-saxons, donc évidemment qu'on fera pareil. C'est déjà mieux sur le terrain que chez nous. Si en plus c'est mieux à la télé, on va évidemment s'empresser de faire pareil. On a suffisamment souligné qu'il fallait réinventer l'expérience du téléspectateur, notamment à l'heure où la Ligue
cherche à créer un nouveau modèle avec des nouveaux prix. Bon ben voilà, si tu veux aller chercher,
c'est ça, en plus on est en plein dedans,
si tu veux aller chercher des nouveaux abonnés, des nouveaux téléspectateurs qui ont souligné aussi souvent ne consomment plus le foot de la première comme à la 90e minute, eh ben il faut leur proposer
Sky Sports et TNT Sports payent 7,8 milliards d'euros sur 4 ans.
Ben oui, ben encore, mais oui. Eh ben le diffuseur
mais
est
roi. Mais tu sais, en tennis, cette
année. Donc le diffuseur est roi. Mais est-ce que nous, on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de faire plier les clubs là-dessus?
Eh ben les clubs, on va leur mettre de l'argent. Si vous voulez,
j'espère,
vous voulez
parce qu'ils pignent assez qu'on n'arrive pas à trouver le diffuseur. Si quand tu l'as trouvé, ils sont réfractaires aux nouveautés, il va falloir qu'ils arrêtent de se plaindre. Alors pour le coup, là en ce moment, on a quand même besoin d'une clarté, d'une stabilité sur les diffuseurs et les droits télé dans le football en Ligue 1. Si la condition, c'est on a trouvé le diffuseur, mais par contre, il faut un peu plus s'ouvrir et on va faire comme en Angleterre le produit qui marche le mieux et qui disent non, excuse-moi, mais là il va falloir qu'ils se remettent en question aussi, les présidents. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout vouloir et ne rien présenter, avec ne rien proposer. C'est pas possible.
La somme qu'ils mettent, ils peuvent avoir quand même des droits, des exigences quand même.
Évidemment.
Marion, c'est un élément. Dire des vérités, c'est pas forcément toujours enfoncer des portes ouvertes. Mais sur le tennis cette année, par exemple, à Roland-Garros, il y a un nouveau diffuseur américain qui vient de signer, qui avait signé pour une année entre guillemets d'essai, et qui d'ailleurs a re-signé dès la fin de Roland-Garros pour 4 ans parce qu'il était extrêmement content du produit final et du produit diffusé aux États-Unis. Ils avaient une innovation qui est quand même totalement exceptionnelle en tennis, qui n'était jamais arrivée auparavant, c'est que les entraîneurs américains ou les entraîneurs de joueurs américains des matchs qui étaient diffusés à la télévision avaient un micro sur eux et pouvaient à n'importe quel moment pendant le match réagir ou interagir avec les commentateurs qui étaient en train de commenter le match.
C'est génial.
Non mais de l'évolution qui est absolument incroyable. Donc de toute façon, on y arrive, on sera beaucoup plus au cœur de l'action d'une manière ou d'une autre, que ça soit avec les entraîneurs qui seront peut-être aussi équipés d'un micro pour mieux entendre ou plus entendre ce qu'ils disent à leurs joueurs, les joueurs qui sont équipés de caméras. On est obligé d'avoir une immersion totale lorsqu'on est téléspectateur, et justement si les télévisions payent des droits aussi chers, c'est pour proposer ce contenu aux téléspectateurs. Donc de toute façon, la France va devoir s'y plier. Et comme le dit Jérôme, si les clubs qui râlent parce qu'ils n'ont pas de diffuseur, le diffuseur demande ça et qu'ils s'y plient pas, je suis désolé, ils tirent une balle en pied directement.
Eh bien, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup les GG, bravo pour cette émission. Merci Marion, Jérôme,
on saluerait
Cédric,
pas Justine une dernière fois.
Simon, oui.
Le canard, quoi. Je te remercie Jérôme. Génial sur le Tour de France.
Pas déçu d'être venu, Cédric, pas déçu de sa réponse pour sa femme. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC. Merci beaucoup mes GG, on se retrouve évidemment le week-end prochain à partir de 9h. Les GG seront là tout l'été et on parlera forcément du Tour de France. Merci les amis, dans quelques instants on vous donne toutes les plus belles cotes autour de Paris Saint-Germain, Inter Miami. À tout de suite.